Ces incroyables croyants, c'est le titre du dernier ouvrage de Yann de Barthalomé. Yann de Barthalomé qui a bien voulu nous accueillir dans son Béarn natal. Yann de Barthalomé qui n'est autre que l'abbé Jean Cazenave. Bonjour.
Bonjour Alexandre.
En 2020, aux éditions Mediapol, vous aviez publié le roman inachevé du bœuf de la crèche. Et là, si je puis dire, vous récidivez Yann de Barthalomé avec ce nouvel ouvrage, également publié aux éditions Mediapol. Alors abbé Jean Cazenave, pourquoi avoir choisi ce pseudonyme de Yann de Barthalomé?
Yann de Barthalomé, c'est un pseudonyme que j'ai pris parce que ma maison maternelle s'appelait la maison Barthalomé. Et le patron de la paroisse de Jasse autrefois, c'était aussi Saint-Barthélemy. Et donc nous sommes ici dans une espèce d'enclos qui faisait partie de cette maison Barthalomé, qui a changé de destination maintenant.
Alors vous êtes né en 1943?
C'est ça.
Et vous avez été ordonné prêtre en 1967, ce qui fait que vous avez célébré vos 50 ans de sacerdoce en 2017. Rappelez-nous un peu quelles sont les grandes étapes de votre vie sacerdotale.
Oui, alors en gros, j'ai commencé par être prêtre étudiant à Toulouse, à l'université de Toulouse, où j'ai fait une maîtrise de philo. Hein. Et j'avais commencé aussi une licence de sciences d'éducation. Et là-dessus, je suis revenu sur Pau, aumônier du lycée de l'Immaculée Conception. Là, j'ai dû y rester à peu près 8 ans. On m'a nommé ensuite aumônier de l'université à Pau. Et après ça, j'ai été curé de Jurançon. Et c'est là que Monseigneur Moller est venu me chercher pour être vicaire épiscopal du monde de la moitié du rural du Béarn. Et après cette nomination, j'ai pris la succession de l'abbé Irola, qui venait de lancer la formation permanente dans le diocèse. Et je suis resté 30 ans, peut-être beaucoup trop, je n'en sais rien, je suis resté 30 ans à ce service de la formation permanente.
Formation permanente des laïcs.
Des laïcs, bien sûr.
Donc vous en avez formé un certain nombre.
Eh bien, au moins d'après les petits comptages qu'on avait fait dans le secrétariat à l'époque, au moins 3000 dans le Béarn, oui. Qui ont passé de 3 ans de formation. Il y avait une année sur l'Ancien Testament, une année sur le Nouveau, puis une année sur les sacrements. Puis ensuite, ça a changé, mais enfin, à peu près, oui, 3000 personnes. Oui.
Alors aujourd'hui, vous êtes un prêtre retraité dans votre Béarn bien-aimé, j'allais dire.
Oui, Béarn natal, au moins, oui, oui. Et je suis à la retraite ici avec mon frère, qui est lui aussi prêtre, et qui a passé beaucoup d'années à Toulouse, et il était dans la paroisse tout près de la ZF, et son église lui est tombée sur la tête à Toulouse. Voilà, et il est retiré ici avec moi.
Qu'est-ce que fait un prêtre retraité de ses journées?
Eh bien, je viens d'arroser mes haricots verts, là, donc je m'occupe de mon petit jardin qui me sert de récréation. J'accueille, il y a pas mal de personnes qui viennent parce qu'un prêtre à la retraite, il a la chance de ne pas accueillir quelqu'un pour une demi-heure ou une heure. Les gens qui viennent, ils viennent pour toute une après-midi et on a le temps d'échanger beaucoup. Ils viennent de Jurançon, de Pau, et même il y a des amis de mon frère de Toulouse qui viennent, d'autant que nous avons un gîte qui nous permet de les accueillir facilement. Et puis, j'ai rendu des services aux prêtres du secteur, plus particulièrement, j'ai rendu service au curé de Monin, parce que je suis tout près ici d'un village qui s'appelle Luc, et j'y vais assez facilement. Et puis, je rends service aussi à la Soule, avec l'abbé Cheto, qui m'envoie régulièrement à Barcus, à Eskiul et à l'hôpital Saint-Blaise. Voilà. Et puis, le reste du temps, eh bien, j'essaie d'écrire toutes les 3 semaines ou tous les mois un blog. Car, depuis que je faisais la formation permanente, j'avais mis un blog en route. Et maintenant, ce blog, il est publié dans les Clairs-Pyrénées, à peu près une fois par mois, avec celui d'un article de Mgr Duplex à Pau et de François Biespéré, prêtre aussi à Retiré.
Ces incroyables croyants, donc c'est le titre de votre nouvel ouvrage, un ouvrage paru aux éditions Mediapol. Alors, Yann de Barthalumé, cet ouvrage, il a été préfacé par René Poujol. Je le cite. Yann de Barthalumé a préféré la chaleur du récit de vie à la froide analyse statistique. Pourquoi cette phrase? Parce que vous nous parlez de la situation de l'Église aujourd'hui.
Oui, tout à fait. René Poujol, que j'avais fait venir comme conférencier à l'époque à Pau, il s'est trouvé qu'il était à Toulouse, justement, en même temps que moi à la fac. Lui faisait du droit et moi de la philo. Et on a beaucoup sympathisé et je lis régulièrement son blog lui, il a un blog qui s'étale sur des centaines de personnes. Et donc, il me dit que, il dit là que c'est un récit, effectivement. Faire des statistiques, ce n'est pas mon métier. Et d'ailleurs, je vois dans la croix d'hier, il y a un philosophe qui a fait, tout un livre sur le déclin de l'Église aujourd'hui. Et il était interviewé avec le président des évêques de France. Donc le sujet est tout à fait d'actualité. Et donc, moi je faisais pas, j'ai pas fait de statistiques parce que c'est un travail trop important. J'ai pris simplement, j'ai puisé, disons, dans toutes les relations que j'ai pu avoir depuis plus de 50 ans dans le Béarn, et j'ai puisé dans la vie de mes contemporains, que ce soit ceux de ma génération, ou ceux de la génération après, et même je vais jusqu'aux petits-enfants. Donc j'essaie de montrer à travers des faits très précis qui sont tous, véridiques. En fait, je n'ai pas donné les prénoms exacts, mais tout ce que je raconte, c'est du vécu. Et donc à travers 3 générations, je montre comment l'Église s'est effritée dans un pays où elle était solidement établie. Moi, j'ai connu dans mon enfance ici un curé encore, et je vous assure que nous étions formés à la fois par le curé, par l'instit qui, lui, nous donnait la morale de Jules Ferry, qui était en gros la morale des 10 commandements, mais laïcisée, et puis la famille. Et à cette époque-là, l'Église, j'allais dire, tenait l'espace et le temps. L'espace avec toutes les croix de mission qu'on trouve à droite et à gauche, et le temps, eh bien, était scandé par toutes les fêtes religieuses, etc. Alors, parce que l'histoire de ce bouquin, elle est très simple, c'est mon éditeur qui m'a dit ça serait bien, après le roman inachevé du Bœuf de la Crèche, d'étudier un peu cette question de l'effondrement de l'Église dans une France où elle était quand même solidement établie. Et ça m'a tout de suite touché, cette demande, parce que j'ai pensé immédiatement aux 6 prêtres. Ce village, en 70, par là, en 1970, devait avoir à peu près 200 habitants. Il y avait 6 prêtres vivants, originaires du village. Aujourd'hui, il y a une dame qui va à la messe à 2 kilomètres d'ici. Voilà l'effondrement, si vous voulez. Alors, j'ai essayé de moduler tout ça en montrant mais comment tout ça s'était passé. Et puis, j'essaie de déblayer quelques petits chemins d'avenir pour ceux qui nous succéderont.
Ces personnes dont vous nous racontez la vie, finalement, comment elles s'impliquaient et quelle vision elles avaient de l'Église. Alors il y a Joseph et Catherine. Alors eux, ce sont la génération des années 50.
Oui, ce sont ceux qui, comme moi, ont connu en fait la chrétienté, ont connu donc cette espèce d'imbrication totale entre la vie paysanne, la vie rurale, parce qu'il n'y a pas que les paysans, il y a les artisans, les commerçants, etc. Mais enfin, tout tournait quand même autour de la terre. Bon. Et c'est cette génération-là qui a vu arriver ensuite le machinisme, l'industrialisation, etc. Et là a commencé une fracture avec le terreau chrétien. Donc c'est Joseph et Catherine, ils ont à peu près mon âge et au-dessus. Et puis ensuite, donc, je montre comment leurs enfants ont été complètement pris par ce développement du rural, enfin, ou du moins de la paysannerie, dans tout l'essor industriel et enfin, agroalimentaire, etc. Et donc là, il y a une cassure entre les deux générations.
Puis, alors, donc, eux, c'est Philippe et Nathalie, donc, qui sont nés dans les années 70, autour des années 70 et qui ont 50 ans, en gros, aujourd'hui.
55 ans.
Voilà. Et puis, il y a leurs enfants, donc les petits-enfants de Joseph et Catherine, qui s'appellent Pascal et Mathilde. Et alors, eux, ils sont très éloignés de l'Église.
Alors eux, et comme beaucoup de ces jeunes-là, ils reviennent très volontiers à la maison familiale le week-end, parce que comme ça, ils font des provisions de bonnes choses que leur préparent la grand-mère et la mère. Donc, ils sont hybrides, ils sont tout à fait citadins et ils restent quand même attachés à la ruralité. Mais, par exemple, Mathilde, elle fait des études de médecine et elle est allée avec Médecins du Monde, etc. À la fin du livre, je montre comment tout n'est pas perdu parce que il y a un échange entre son grand-père et elle qui fait que elle reconnaît au moins que la génération de son grand-père a tenu bon dans cette tempête. Et elle finit par se dire que avec tout ce qui nous arrive aujourd'hui, la pandémie et la violence qui se déchaîne, etc., mais peut-être qu'il ne serait pas mauvais de regarder un tout petit peu du côté de l'Évangile pour voir ce qui se dit.
Vous retracez à travers ces six protagonistes finalement l'évolution de l'Église mais aussi de notre société durant ces 70 dernières années. Mais ce livre, il est toujours optimiste, il est toujours plein d'espérance. C'est pas un livre uniquement nostalgique, même s'il y a des moments quand même où on sent que vous dépeignez une ruralité que vous semblez regretter.
Oh non, je ne la regrette pas, d'abord parce que moi je n'ai pas été paysan et donc j'ai regardé les choses un peu de l'extérieur. Mais je finis par une note, oui, plus optimiste et je crois même réaliste parce que je crois qu'il peut y avoir une nouvelle Pentecôte. Et je vois des petits groupes à droite et à gauche qui des baptisés qui réfléchissent maintenant sur leur baptême et qui se disent, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Bon, si avec ça, on ne peut pas régénérer, parce que bon, l'Église a pris encore ce coup de massue avec toutes les histoires de pédocriminalité, etc., on s'est dit, ça y est, c'est le dernier coup définitif. Et donc, je me dis, non, il y a des baptisés qui sont en train de se retrouver et de retrouver, en fait, les petites communautés du temps de Saint-Paul. Et qui sait si c'est. Enfin, je suis persuadé que c'est à partir de ce que j'appelle des cellules d'église que on retrouvera une dimension un peu missionnaire adaptée à ces nouvelles générations.
C'est un livre assez court, hein? Il y a combien de pages? 160 pages?
Oui, au maximum. 158.
Il y a 7 chapitres donc dans ce livre. Alors, il y a un premier chapitre intitulé L'arrière-monde. Là, vous nous racontez finalement les années 50.
Oui, c'était les derniers feux de la chrétienté. Hein, c'était l'époque encore où une majorité de mes concitoyens se retrouvaient à la messe le dimanche et où il y avait quelques rares incroyants, mais qui ne faisaient pas, j'allais dire, ombrage au reste de la population, qui se disaient chrétiennes, catholiques, et qui suivaient à peu près. Bien que là, moi je suis très ennuyé par cette façon qu'ont des jeunes aujourd'hui de magnifier une époque qu'ils n'ont pas connue. Car moi je me souviens très bien que les veillées de Noël à l'église, ça se passait pas dans un silence respectueux souvent. Il y avait, disons que cette communauté paroissiale apparemment se réunissait sous les ailes du bon Dieu, mais en fait, la vie chrétienne n'était pas aussi évidente qu'on veut bien le croire. En tout cas, moi, je n'essaie pas d'enjoliver ce passé parce que c'est faire croire que tout allait très bien il y a 50 ans et que tout va très mal aujourd'hui. Je ne pense pas du tout à cela parce que j'ai des souvenirs bien précis de ce qui se passait il y a 60 ans dans notre région.
Dans le deuxième chapitre intitulé « L'ancien monde », vous dites « La nature désormais maîtrisée par l'homme n'avait plus besoin de l'intervention divine ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Je voulais dire qu'il y a eu toute une époque, l'arrière-monde justement, où le Dieu auquel on croyait était le Dieu créateur. Le Dieu créateur est tout puissant, c'est-à-dire qu'il faisait ce qu'il voulait, il envoyait la grêle, alors on le priait pour qu'il envoie chez les voisins.
Et, c'était l'érogation ?
Oui, enfin l'érogation, ça encore, je crois qu'au bout d'un moment, on priait Dieu pour que le travail des hommes soit plus efficace et plus solidaire. Mais on avait, à cette époque-là, on avait dans la tête le Dieu créateur tout-puissant qui envoyait des calamités, certainement parce qu'on avait péché quelque part, ou qui envoyait le beau temps. Bon, je vois encore récemment, il y a quelques années, j'ai fait un mariage où, à la sortie, on m'a dit « Ah !» Ah, le bon Dieu nous a bénis parce qu'il a fait beau temps. Et je leur ai dit, oui, mais là où il a plu, et sur le mariage, enfin, là où il a plu, alors qu'il y avait un mariage, ils n'ont pas été bénis. Alors voilà, on avait des espèces de schémas comme ça, et tout tournait autour du Dieu créateur. Hein. Et on chantait, je crois en toi, mon Dieu, etc. Les cantiques étaient appropriés d'ailleurs à cette époque.
Il se disait encore de la religion catholique, mais ne comprenait pas la langue du credo. Là, vous nous parlez de la deuxième génération, donc c'est toujours dans le chapitre « L'ancien monde ». C'était une foi par la transmission plutôt que par la compréhension ou par le vécu.
Oui, c'est-à-dire que de plus en plus, donc l'arrière-monde, c'est ma génération qui plongeait ses racines dans l'arrière-monde. Mais l'ancien monde, donc, ce sont ceux qui ont vécu à fond les Trente Glorieuses, hein, que j'appelle l'ancien monde. Et là, c'est là où, petit à petit, eh bien, je le vois encore quand je vais célébrer des messes où oui, on a une génération de quinquagénaires et au-dessus, ben, qui ne savent plus le credo, qui ne savent plus le gloire à Dieu, etc. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ne le comprennent plus. Le vocabulaire ne leur dit plus rien. Et alors je me dis, célébrer une Eucharistie devant des gens qui ne comprennent plus ce que ça veut dire, de plus en plus je me dis, mais il va falloir quand même repartir un peu à zéro.
Alors vous dites aussi, le Christ a mis des exclus et des pauvres leur avait paru plus gênant qu'entraînant, en tout cas déconnectés de la réalité de leur cadre de vie.
Oui, ça c'est la génération des Trente Glorieuses, où ma génération à moi a connu le grand essor de l'Action catholique. Moi, j'ai connu encore les derniers grands rassemblements de la JAC à Pau, où les jeunes arrivaient avec leurs tracteurs sur la place Verdun, mais c'était une foule. Et cette génération de l'Action catholique a évangélisé des laïcs, hein, qui ont maintenu d'abord vivante la foi, et a essayé de la partager avec leurs contemporains. Cette Action catholique, elle, a mis l'accent sur le Jésus artisan, le Jésus travailleur, etc. Donc on est passé du Dieu créateur, je simplifie beaucoup, hein, à Jésus artisan, travailleur, etc. Et là aussi, on a, j'allais dire, coincé Jésus dans une sorte de, dans un portrait, mais qui était dans lequel on l'a un peu enfermé. Et donc cette génération, au bout d'un moment, eh ben, quand elle a vu que l'homme n'avait plus besoin d'appeler à son secours le Dieu créateur ou le Jésus artisan pour faire marcher, disons, l'économie ou les finances, eh bien, petit à petit, ils se sont dit, bon, Jésus a mis des pauvres et des mendiants, etc. Il n'est pas dans l'élan des Trente Glorieuses, où on allait allègrement vers des lendemains qui devaient toujours chanter. Et on a un tout petit peu fait marche arrière, quand même.
Alors ce deuxième chapitre, il se conclut par cette question que se posent Joseph et Catherine. Pourquoi l'homme occidental contemporain, dans sa marche en avant triomphante, a-t-il abandonné Dieu, ou plutôt l'Église qui se réclamait de lui ?
Oui, ben c'est la question, je pense, que se pose tout baptisé. Et aujourd'hui, parce que bon, on ne peut pas ne pas ouvrir les yeux sur cette baisse de fréquentation de l'Église, et au-delà de ça, d'une baisse de la foi. Et disons, je pense que c'est la question fondamentale de savoir, ce que je dis à un moment donné, est-ce que cette crise que nous traversons, parce que je crois que c'est une crise très profonde, mais ce n'est qu'une crise, est-ce que cette crise n'est pas le signal que Dieu ne peut pas se laisser enfermer dans des formules, dans des portraits tout faits comme le Dieu créateur, ou comme le Jésus artisan, ou comme même l'esprit des charismatiques à une époque où c'était le Dieu qui venait soigner les maux de l'âme, etc. Et je crois que il faut quand même, parce que je dis à un moment donné, je crois que c'est dans la quatrième page de couverture, que c'est un peu Dieu qui nous envoie cette crise. Je pense qu'on ne peut pas le dire dans un raccourci aussi rapide, mais est-ce que ce n'est pas un signal d'un Dieu qui ne se laisse jamais enfermer dans une définition, dans un rite, dans une façon, dans une culture? Notre Dieu s'échappera toujours des mots dans lesquels on veut l'encager, j'allais dire. Et donc, mon espérance, c'est que cette crise nous oblige à aller encore plus en avant vers un Dieu qui est toujours au-delà. Et je me dis que si les baptisés qui ont aujourd'hui l'Église a des tendances, enfin dans l'Église dans laquelle il y a des tendances parfois opposées, si nous étions tous en marche vers un Dieu qui est toujours au-delà de nos petites définitions et de nos mots qui sont toujours inadéquats quand on parle du divin, peut-être que on pourrait espérer un certain écuménisme dans notre propre Église, à condition qu'on permette à chacun d'avoir un chemin différent, mais qui aille quand même, qui ne se bloque pas sur tel ou tel portrait de Dieu.
Dans le troisième chapitre, vous parlez des post-chrétiens. Alors, qu'est-ce que c'est ça, les post-chrétiens ?
Oh, ben, ce sont ceux qui ont gardé une certaine culture chrétienne. Ce sont ceux qui se reconnaissent dans certaines valeurs chrétiennes, mais dont, qui disent n'être plus dans la foi vivante. Hein. Ils croient en des valeurs, mais ils ne croient plus dans le credo, ni dans la résurrection du Christ, etc. Ce sont des post-chrétiens. Alors comment faire pour ranimer un peu cette mèche qui fume encore? C'est, je crois, le travail de tous les prêtres en paroisse qui sont souvent au contact avec ces personnes qui viennent encore demander quelques rites, en particulier pour les obsèques, mais qui ne partagent plus une foi vivante. Et comment faire au moins les accueillir avec une certaine fraternité et puis essayer de les faire un petit peu cheminer. Mais je vois que depuis des années et des années, parce que quand j'étais vicaire épiscopal, on me disait toujours « Ah, les obsèques, c'est la pastorale la plus importante pour un prêtre en paroisse. » Parce que c'est là qu'il peut catéchiser, c'est là qu'il peut évangéliser. Quand je pense que, ici, dans ces petits villages, où les gens assistent à peu près à 10 ou 12 obsèques par an, et ça depuis des années et des années, alors, ou c'est la faute des prêtres qui ne savent pas, ou c'est la faute des gens qui ne comprennent pas, mais je ne vois pas comment les obsèques ont été un terrain d'évangélisation. Je crois qu'on se fait quelques illusions quand on dit que c'est là l'évangélisation qui nous reste encore entre les mains. Oui, certainement, il y a un terrain propice à un dialogue, etc. Mais baser tout sur les obsèques, je crois que c'est mal évalué la mentalité des gens qui viennent ou qui écoutent ce qui se passe dans nos cérémonies.
Vous donnez un exemple aussi, toujours dans ce chapitre 3 sur les post-chrétiens. Donc c'est Joseph et Catherine, les grands-parents, qui ont vécu donc dans les années 50. Et eux, ils veulent faire visiter l'église à leurs petits-enfants et ils se rendent compte que ça n'intéresse pas du tout leurs petits-enfants.
En fait, ce n'est pas eux qui ont fait ça, c'est moi qui l'ai fait. Quand j'étais à aumônier des étudiants, j'amenais les étudiants à l'Esquin, un petit village dans la montagne. Et à cette époque-là, j'étais aussi responsable de la pastorale du tourisme. Et nous avions mis un certain nombre d'activités en place. Et moi-même, je m'étais dit, puisque tu es à l'Esquin, autant faire un peu de permanence dans l'église, parce que je savais très bien que un nombre considérable de gens qui faisaient le GR 10 quand il commençait à pleuvoir ou se réfugier dans l'église. Et j'ai fait des permanences comme ça pendant un mois à l'Esquin. Et un jour, j'ai rencontré une famille et les enfants ont été tout de suite scotchés par le corbillard. Ah, parce qu'il y avait un corbillard qui était sous la tribune là. Et il n'y avait que ça qui les intéressait. J'ai eu beau expliquer le bénitier, la chair, enfin tout le reste, tout ce qui pouvait être un tout petit peu catéchisable, ou je ne sais pas comment il faut dire. Mais alors, le corbillard, c'était pour eux la diligence du western, etc. Alors bon, j'ai essayé à partir du corbillard quand même de leur expliquer un petit peu ce qu'était les obsèques chrétiennes.
Vous citez aussi Benoît XVI, toujours dans ce chapitre, Abbé Jean Cazeneuve. Nous n'avons jamais la vérité, dans le meilleur des cas, c'est elle qui nous a. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, finalement. Si on arrivait à avoir un Dieu à plus au-delà, peut-être
Oui.
on arriverait à une forme d'entente, d'unité finalement retrouvée au sein de l'Église catholique.
Oui, en fait, dès qu'on commence à dire c'est moi qui dis la vérité, ou c'est telle liturgie qui est la vraie, ou telle théologie qui est la vraie, et très vite ça finit en disant c'est telle idéologie qui est la vraie à l'exclusion des autres, bien, à ce moment-là, on n'est plus dans la foi, dans un Dieu qui est toujours au-delà. Et je pense que le pape Benoît XVI, quand il dit c'est la vérité qui nous a, eh bien si c'est la vérité qui nous a, ben, nous sommes toujours en marche, nous sommes toujours sur l'itinéraire de cette vérité. Et je pense en plus que nous aurons toute l'éternité, parce que pour moi le paradis c'est peut-être un peu ça, nous aurons toute l'éternité pour continuer à découvrir qui est Dieu. Parce que qu'est-ce que l'infini, l'être infini, pour nous qui sommes des petits humains. Voilà.
Revenons au protagoniste, toujours donc de votre ouvrage, Ces incroyables croyants, Abbé Jean Cazenave. C'est le chapitre 4, Le monde d'après. Donc les grands-parents, Joseph et Catherine, avec d'autres, se posent la question, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Oui, alors, c'est un passage où je dis qu'il y a des anciens qui se sont réunis dans un petit mouvement qu'ils appellent le Mascate. Je ne sais plus d'ailleurs comment j'ai. C'est le mouvement des anciens seniors catholiques, quelque chose comme ça. En fait, c'est un peu le MCR d'aujourd'hui. Et ce sont des gens qui se sont dit, bon, la parole la plus compréhensible pour le monde d'aujourd'hui, ce sont les actes. Parce que des paroles, on en a partout. Tous les réseaux en sont pleins, même dans l'église, dès qu'on a un ordinateur, on est submergé d'un tas de textes plus ou moins intéressants, mais enfin, il y en a qui sont vraiment très intéressants. Mais ils se disent, pour atteindre les fameuses périphéries dont tout le monde en a plein le gosier, est-ce que ce n'est pas les actes? Parce que un acte, ben, tout le monde le comprend, à condition bien sûr qu'il y ait une explication, qu'il n'y ait pas de confusion. Mais un acte, ça parle. Et alors ils se disent, eh bien, que pouvons-nous faire? Et là, ils reprennent un réflexe évangélique, parce que quand on se souvient des premiers disciples qui allaient voir Jean-Baptiste, leur question est maintenant, que devons-nous faire? Et c'est là que Jean-Baptiste leur dit, eh bien, que le soldat se contente de sa solde, etc. Et dans les actes des apôtres, idem. Quand les apôtres ont exposé un peu la foi, on leur répond, et que devons-nous faire? Donc, ces anciens-là se disent, aujourd'hui, nous avons certainement quelque chose à faire dans le monde et dans l'Église pour que la parole de Dieu soit entendue.
Il fallait procéder à une sorte de purification permanente de sa langue, en parlant de l'Église, de ses rites, de ses institutions, pour retrouver la tradition première, celle de l'Évangile.
Oui, bon, c'est vrai que nous avons une tradition vivante extraordinaire, hein, qui est 2000 ans. Qui peut dire quel est le mouvement humain qui peut dire qu'il a plus de 2000 ans de tradition? Mais dans ce bagage, il y a un moment où le sac à dos finit par entraver plus qu'il n'aide à courir. Et il y a certainement dans l'Église un tas de traditions très respectables, mais qui ne disent absolument plus rien au monde d'aujourd'hui. Quand on voit les signes de l'autorité, les vêtements sacerdotaux, des choses comme ça, moi, je prends l'exemple de la dalmatique du diacre. Moi, je suis toujours étonné de voir les diacres qui sont chamarrés de rouge, d'or, etc. Alors que, bon, le diacre, c'est le serviteur. Je vois mal comment quelqu'un qui n'est pas très, très au courant, quand il voit un diacre servir à l'hôtel, peut se dire, lui, c'est le serviteur. Mais je dirais la même chose d'ailleurs pour le prêtre, pour l'évêque ou autre. La façon dont, bon, c'est peut-être anecdotique, hein, la question des vêtements, etc. Mais quel langage ça donne, enfin, ou quel message ça donne? Et là, je crois qu'il y a, quand même beaucoup de choses, et même dans le vocabulaire. Hein, le vocabulaire de nos prières eucharistiques, bon, il y a 60 ans, depuis le Concile, qu'on dit ces mêmes prières eucharistiques, est-ce qu'il ne faudrait pas quand même essayer de les adapter un tout petit peu aux oreilles contemporaines?
Un de ces incroyables croyants propose de ne plus jamais prononcer le mot de l'Église sans ajouter « de Jésus-Christ ».
Oui, parce que pour les trois quarts des gens, quand on parle, c'est la même chose, sans être vulgaire, mais quand on parle de l'amour, les trois quarts des jeunes générations aujourd'hui, quand on parle de l'amour, ils pensent à l'acte sexuel. L'amour dans un couple, etc. C'est la même chose quand on parle de l'Église. Quand on parle de l'Église aujourd'hui, l'Église tout court, c'est forcément l'institution. Et alors, on tape sur l'institution, etc. Par contre, Jésus garde quand même encore dans la tête de beaucoup de gens. On a une bonne opinion de Jésus. Et je me dis, au lieu de dire tout simplement l'Église ceci, l'Église ça, l'Église de Jésus-Christ, ça donnerait une autre, ça teinterait, disons, différemment peut-être aux oreilles des gens.
Alors vous posez ensuite la question de l'Église d'après, que sera l'Église d'après, et comment envisager un avenir pour une Église sous perfusion?
Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui quand je vois dans beaucoup de diocèses de France, on fait appel à nos confrères africains, asiatiques, sud-américains. Je me dis, bon, qu'est-ce qu'ils viennent faire les trois quarts? Les trois quarts, ils viennent faire du culte. Or, est-ce que le culte évangélise? Moi, je n'en suis pas très sûr. Avec tout ce que je viens de dire justement auparavant. Et c'est vrai que ça donne l'idée d'une église sous perfusion et où le liquide qu'on donne dans la perfusion vient de continents différents. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas. Si c'était un moment à passer pour que l'Église se régénère elle-même, très bien. Mais je crains fort que cette perfusion n'aille petit à petit vers une espèce de goutte à goutte de plus en plus rare et aille vers l'extinction des communautés. Alors, dans ce livre, je ne donne pas des, entre guillemets, des directives pour une Église de demain. Parce que ça voudrait dire, encore une fois, qu'on met l'Esprit Saint dans des passages obligés et qu'on lui dit « il faut que tu passes par là pour rénover l'Église ». Non, je crois qu'il faut que des petites cellules d'Église essaiment de plus en plus, essaient de s'ouvrir au maximum à l'Esprit que chacun de nous portons et que ces petites cellules se regroupe en communauté et refasse une église plus évangélique.
Tout ça, ça s'est accéléré quand même aussi, alors est-ce qu'il faut dire à cause ou grâce à la pandémie?
Oui, je ne sais pas trop si c'est à cause ou grâce, mais c'est vrai que pendant la pandémie, on a eu, entre guillemets, la chance de recevoir beaucoup de textes qui passaient dans des divers groupes chrétiens. Il y a eu aussi des petites équipes qui ont commencé à se réunir et puis après ils ne pouvaient plus à cause des barrières sanitaires. Mais il y a eu quand même, un petit renouveau. Alors est-ce que ça va éclore, je n'en sais rien. Mais je crois que beaucoup de chrétiens se sont échappés, entre guillemets, enfin ont profité de l'occasion pour prendre la porte de l'église et ne plus y aller. Je suis étonné de voir comment des personnes qui étaient des pratiquants résolus et très très fidèles, eh bien, ont pris beaucoup de distance. Et ça continue, parce que quand je vous disais que je reçois quand même pas mal de personnes ici ou des coups de téléphone, je vois des gens qui me disent « je ne communie plus ». Ben, j'ai dit « mais enfin, non, je ne communie plus, parce que chez nous, on ne fait aucune attention aux gestes barrières, on ne met jamais une palle sur les hosties, etc. Je ne communie plus ». Et je vous assure que ce n'est pas des cas rares, ce sont des gens. Donc, j'ai peur que, avec cette épidémie, eh bien, il y ait aussi une épidémie d'absentéisme dans l'Église. Et je souhaite que ces personnes-là se retrouvent et essaient de se redonner les moyens de faire communauté.
Les trois derniers chapitres de votre ouvrage s'intitulent « Copeaux extraits du grenier de l'arrière-monde »,« Copeaux perdus dans les silos et les poubelles de l'ancien monde », »,« Copeaux offerts dans le monde d'après, le vôtre ». Ce sont finalement des témoignages que vous avez glanés au fil de votre expérience.
Oui, en fait, ce sont des blogs que j'ai fait dans pendant plusieurs années et que j'ai réunis. Les uns faisant allusion donc à l'ancien monde, ça commence par le petit morceau de bois qu'on avait quand on dépouillait le maïs. Je les ai réunis entre l'arrière-monde, l'ancien monde et le nouveau monde. Ce sont un peu, bon, si vous voulez, quelques petits textes de réflexion. Alors je dis que c'est le grand-père qui l'offre à ses petits-enfants. Et donc, les petits-enfants, ensuite, qui le mettent sur Internet, qui l'envoient à leurs cousins, etc. Mais c'est pour montrer aussi l'importance d'une certaine transition. Une transition qui ne renie pas totalement ni l'arrière-monde, ni l'ancien monde, mais qui essaie d'en sortir la sève et de communiquer cet essentiel, disons, l'essentiel de l'expérience de ce vieux couple qui transmet comme il peut à ses enfants.
Merci beaucoup, Abbé Jean Cazenave. Je rappelle donc le titre de votre dernier ouvrage qui paraît ce mois de septembre, « Ces incroyables croyants ». Il faut chercher l'auteur, c'est Yann de Bartholomé, donc c'est vous. Il est préfacé par René Poujol. Alors, en conclusion, si j'ai bien compris le propos de votre ouvrage, pour vous, rien n'est perdu. Il faut revenir à l'origine, c'est-à-dire à l'Évangile. Et la période que nous vivons, finalement, c'est Dieu qui nous l'a fait vivre.
Oui, enfin, il faut faire attention aux raccourcis. C'est Dieu qui nous l'a fait vivre, mais ce n'est pas Dieu qui nous a envoyé le virus pour nous faire réfléchir, disons. Ou qui nous vide les églises pour que nous en fassions une nouvelle. Moi, je pense que c'est, on parle beaucoup dans les textes aujourd'hui du kairos, c'est le moment opportun qui nous est offert, certainement, pour reconsidérer, pas uniquement des espèces d'aménagements provisoires ou des aménagements liturgiques ou autres, mais reconsidérer la base de notre foi. Et c'est pour ça que j'ai parlé de ce Dieu qui est toujours au-delà de nos images, parce que en fait, chaque fois que nous faisons une image de Dieu, nous nous faisons une idole. Or, toute l'histoire de la Bible, c'est un combat contre les idoles. Notre Dieu est un Dieu qui s'échappera toujours des images que nous lui collons sur le dos. Et c'est ça peut-être le signal de cette période très difficile de l'Église, c'est pour l'obliger peut-être à aller encore plus profond ou plus au-delà des façons de penser ou des façons de réfléchir qu'elle a depuis des années et des années.
Merci beaucoup Abbé Jean Cazenave et donc votre Merci ouvrage « Ces incroyables croyants » paru aux éditions Mediapol en vente dans les bonnes librairies en ce mois de septembre.
Dès maintenant.